La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.
Ravi de vous retrouver sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria pour vous faire vivre en direct cette deuxième journée de la sixième édition de la REF, ici même à l'Hippodrome de Paris-Longchamp, où nous allons vous faire vivre encore une fois en direct l'événement. Vous pouvez d'ailleurs retrouver également en replay nos podcasts sur nos antennes respectives. Et puis c'est l'occasion pour nous de vous faire vivre l'événement grâce aux invités que nous recevons ici même autour de cette même table. Alors chaque année, en France, 80 000 personnes sont victimes d'accidents cardiaques. 75% de ces accidents ont lieu au domicile. Il serait peut-être temps de s'intéresser et utile à l'installation d'un défibrillateur dans son immeuble. Ce sera le sujet de ce premier échange. Pourtant, les immeubles, au contraire des ERP, les établissements qui accueillent du public, ne sont pas soumis à la loi, par la loi, pour installer ce type d'appareil. Thibault-Antoine Paulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Locacœur, premier réseau d'urgence cardiaque. Voilà, Locacœur est une entreprise spécialisée dans la commercialisation et la location de défibrillateurs cardiaques, une entreprise créée quand ça ?
En 2013.
D'accord, et vous êtes basé où ?
Nous sommes basés à Aix-en-Provence.
D'accord, ok. Déjà, première question, c'est quoi l'intérêt pour vous d'être présent sur ce type d'événement ?
Bah, écoutez, on a tous les chefs d'entreprise aujourd'hui sont en train de revisiter leur vision de l'avenir. On a tous évidemment noté les problématiques d'inflation, d'hausse des taux d'intérêt, l'instabilité politique, l'instabilité géopolitique aussi. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de gérer l'incertitude. Aujourd'hui, l'incertitude augmente beaucoup. J'apprécie de pouvoir échanger avec de nombreux chefs d'entreprise pour voir quelle est leur vision et essayer de confronter la mienne pour créer quelque chose de plus cohérent.
Et depuis hier, les échanges sont fructifs ?
Ils sont très fructifs, effectivement. Et concrètement, il y a une convergence de cette idée qu'on rentre dans un nouveau paradigme, qu'on finit un cycle qui a duré une vingtaine d'années et il faut revisiter notre façon de gérer et de développer nos entreprises.
Alors, défibrillateur, Locacœur, c'est quoi le système ? Comment ça fonctionne concrètement ? Qu'est-ce que vous proposez comme type de prestation ?
Alors, nous, on est spécialisés dans la location de défibrillateurs que nous télésurveillons. Il faut se rappeler qu'un défibrillateur est un matériel médical qui va être utilisé au moment où il ne faut absolument pas qu'il soit défaillant. Concrètement, l'espérance de vie d'une personne qui est victime d'un arrêt cardiaque se mesure en minutes. Les pompiers n'auront pas le temps d'arriver, évidemment. Donc, il faut que le défibrillateur soit parfaitement efficace et fonctionnel. Nous choisissons le matériel, nous l'implantons donc chez nos clients, nous en assurons tout l'entretien et nous le télésurveillons avec un module dont on est fabricant, de façon à nous assurer au quotidien que le défibrillateur fonctionne. Par ailleurs, lorsque vous allez utiliser le défibrillateur, nous avons un centre de secours qui va vous accompagner dans l'utilisation de ce défibrillateur pour vous aider à gérer les cas les plus atypiques. On peut tomber sur une personne qui a une hémorragie, comment positionner les électrodes quand il y a une hémorragie, sur un environnement, comment agir face à une femme enceinte, par exemple. Voilà, c'est notre rôle.
D'accord. Et vous formez les personnes à utiliser l'appareil ? Comment ça fonctionne ?
Oui, chaque installation est suivie d'une formation. Et dans nos contrats, les formations sont systématiquement proposées tous les ans. Et on ne ferme pas du tout le nombre de participants ou les participants. C'est-à-dire que si on pense à, par exemple, une mairie, on ne va pas dire ce ne sont que les personnels qui vont être formés. Ça peut être les habitants. Voilà. Toutes les personnes qui souhaitent être formées peuvent être bienvenues dans nos formations.
D'accord. Donc, on a vu, il y a une loi qui est passée qui impose donc aux établissements qui accueillent du public, d'avoir à portée de main, je dirais, un défibrillateur. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas dans les copropriétés, dans les immeubles. Est-ce que vous prenez, justement, là aussi, une loi qui irait dans ce sens-là ?
Vous l'avez rappelé en introduction, la majorité des arrêts cardiaques intervient à domicile. Il faut donc s'interroger sur l'accessibilité des défibrillateurs. Est-ce qu'on doit le faire sous forme de loi ? Oui, évidemment, ça accélérerait. On a vu l'impact de la loi de 2019 qui a permis de tripler le parc de défibrillateurs en France. Donc, oui, ça serait utile. Par contre, il faut quand même se rendre compte qu'on a à peu près 500 000 défibrillateurs en France. Et c'est déjà un nombre qui est très important. Alors, évidemment, on peut toujours faire mieux. Peut-être que plus qu'une loi spécifique sur telle ou telle structure comme des copropriétés, peut-être qu'il faudrait qu'on s'interroge sur la répartition des défibrillateurs et leur accessibilité. Je vais vous vous donner un chiffre très, 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 très parlant. On a travaillé avec une commune dans le Loiret qui a 19 défibrillateurs qui sont déployés dans différents ERP de la ville, sauf que ces 19 défibrillateurs ne couvrent que 93% de la population. C'est-à-dire que seuls 93% de la population a accès en un temps suffisamment court à un défibrillateur. Mais plus inquiétant, ces défibrillateurs sont tous positionnés dans des salles qui ont des horaires, des plages horaires limitées. Donc concrètement, pour le dire de manière un peu brutale, dans cette commune, selon où vous êtes, si vous habitez près de la salle de sport, eh bien vous avez le droit de faire un arrêt cardiaque de 17h à 21h. Ouais. Donc voilà, c'est le genre de problématique. Oui, on peut mettre un nouveau défibrillateur dans la copropriété, ça serait utile. C'est bien le débat, il est bien là. Mais peut-être qu'il y a un défibrillateur qui n'est pas très loin déjà et qu'il faudrait plutôt déployer celui-ci entre la copropriété et la salle de sport et donc permettre à tout le monde de mutualiser sans augmenter les charges de copropriété qui sont un problème récurrent.
Et comment mieux répartir ? Comment faire en sorte justement que ces défibrillateurs soient accessibles tout le temps ? C'est quoi ? C'est la négociation auprès des collectivités avec les pouvoirs publics en place ? Comment ça fonctionne ?
Ça va dépendre de la sensibilité des clients. Il y a des clients qui nous demandent notre expertise. Il y a des gens qui vont plutôt respecter au maximum, être au plus près de la loi et des décrets d'application. Donc ils vont déployer dans les ERP. Il y a une mutualisation qui est possible. On peut prendre un petit peu de liberté si c'est pour améliorer l'accessibilité. Le problème qu'on a, je pense, aujourd'hui, par rapport à cette idée de l'application de la loi et des décrets, c'est qu'on n'a pas encore de jurisprudence sur qu'est-ce qui se passe quand le défibrillateur n'a pas été accessible, qu'est-ce que le juge va décider.
Est-ce que vous êtes déjà présent dans des copropriétés, vous ?
Oui, on a des copropriétés. Alors, la façon dont on fonctionne avec les copropriétés, on va positionner le défibrillateur à un endroit qui est le plus accessible pour la majorité. Et surtout, ce qui est très, très important de notre point de vue, c'est qu'on soit bien responsable du matériel médical qu'est le défibrillateur. Je l'ai dit tout à l'heure, un défibrillateur qui est dysfonctionnel, c'est peut-être une personne qui va décéder. On a eu un cas, il y a une région française qui, par défaut d'entretien, a à la porte la responsabilité d'un décès aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de positionner les défibrillateurs sans pour autant engager la responsabilité d'un syndic ou d'un conseil syndical. Donc on reste propriétaire de la machine, on la télésurveille et on l'entretient.
Ouais, ce que vous êtes en train de dire finalement, c'est que les copropriétaires n'ont pas intérêt à acheter eux-mêmes le défibrillateur.
La question qui va se poser, c'est quelle est la personne qui va vraiment prendre en charge le suivi du défibrillateur ?
La personne référente.
La personne référente. Et évidemment, dans l'évolution des conseils syndicaux et les ventes, les achats, les locations, etc., toute personne bien motivée peut être amenée à partir et qui prend le flambeau par la suite.
C'est quoi la durée de vie moyenne d'un défibrillateur ? On sait ? On a une idée comme ça ?
Les fabricants ne sont pas très disserts. Il n'y a aucune loi qui impose de changer le défibrillateur au bout d'un certain temps. Alors, il y a deux grandes catégories. Il y a des défibrillateurs qu'on appelle des défibrillateurs à pile interne. C'est une petite pile qui est en supplément de la batterie externe et qui ne peut être changée que par le fabricant, ce qui est une opération qui est trop lourde, le coût en est trop lourd. Tous ces défibrillateurs doivent être absolument changés. Alors là, j'insiste vraiment, absolument changés. Il y a eu un rappel d'ailleurs de l'ANSM, notre régulateur, l'Agence nationale de la sécurité et du médicament, pour le changement de ces défibrillateurs. Donc généralement, c'est aux alentours entre la 5e et la 7e année. La deuxième catégorie de défibrillateurs, qui est plus rare, ce sont ceux qui n'utilisent pas ces batteries, ces piles internes. Nous, on a une politique très, très stricte, c'est que on ne va pas dépasser la durée de la garantie constructeur. Nous, on est distributeur, on entretient des défibrillateurs. Si le constructeur dit, moi, je garantis 8 ans et au bout de 8 ans, je ne suis pas sûr que ça marchera si bien que ça, donc je ne fais pas plus que 8 ans, qui est-on pour dire, bah non, nous, on sait mieux, donc on va l'utiliser pendant 10 ans, 12 ans. Je reviens une fois de plus, hein, excusez-moi d'insister autant là-dessus, mais si le défibrillateur est dysfonctionnel, la personne va peut-être décéder, alors qu'avec un défibrillateur plus récent, peut-être qu'elle aurait survécu. On ne peut pas se permettre ça. Donc nous, on a cette politique très, très stricte qui est de ne jamais exploiter un défibrillateur au-delà de la période garantie.
Ok, je donnais quelques chiffres tout à l'heure. Je disais que 80 000 personnes sont victimes d'accidents cardiaques chaque année en France. Est-ce que depuis que la loi est passée pour les établissements accueillant du public, il y a eu des évolutions au niveau de ces chiffres ou c'est toujours pareil ?
C'est le drame. Le taux de survie n'a pas évolué du tout.
Et comment est-ce qu'on l'explique alors ça ?
Alors, il y a Il y a plusieurs explications. Une très très importante, c'est qu'il y a peut-être un déficit de culture des Français de manière générale sur l'arrêt cardiaque. Posez-vous un petit peu la question, posez la question autour de vous, comment on identifie un arrêt cardiaque ? Parce que si on ne sait pas identifier un arrêt cardiaque, on ne pensera pas à utiliser le défibrillateur. Donc il y a un vrai travail de formation, de prévention, d'explication qui, de notre point de vue, devrait être porté par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, il n'y a pas de sujet malheureusement là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un défaut d'entretien majeur. Il y a différentes études qui ont été publiées, y compris récemment. Ces études montrent qu'entre 30 et 60% des défibrillateurs actuellement déployés en France ne sont pas fonctionnels ou alors sont en suspicion de non-fonctionnement. On est passé de 150 000 à 500 000 environ défibrillateurs en 3 ans. Donc il y a un effort monumental qui a été fait, financier, en termes d'organisation. Eh bien, entre 30 et 60% de ces défibrillateurs ne sont pas fonctionnels. C'est fascinant.
Oui, c'est hallucinant. Même.
C'est hallucinant, exactement.
Ok. Aujourd'hui, un copropriétaire, une copropriété qui nous écouterait en ce moment même, qui serait intéressé effectivement pour avoir recours à vos services, comment ça fonctionne concrètement ? Quel va être le process, les différentes étapes ?
Alors le process, nous on va faire une analyse de la copropriété, on va proposer un type de matériel et un emplacement, on va peut-être proposer plusieurs défibrillateurs. Évidemment, la copropriété est maître chez elle, donc ce sera la copropriété qui décidera au final l'emplacement du défibrillateur. On va donc déployer le défibrillateur, on va déployer la signalétique, on va former toutes les personnes qui le souhaitent. Tous les ans, quand on va faire les visites préventives, on organisera de nouveau des formations. Lorsqu'on fera des éventuelles visites curatives ou des reconditionnements après utilisation, si malheureusement le défibrillateur a été utilisé, de la même façon, on va systématiquement proposer des formations. Et je veux insister sur deux choses qui sont la qualité du suivi et la réactivité. La qualité du suivi, notre matériel avec notre module de télésurveillance est vérifié tous les jours. On vérifie les 88 composants du défibrillateur tous les jours, à distance évidemment, ce qui nous permet d'être très réactifs en cas de problème. Et quand le défibrillateur a été utilisé, il faut de nouveau qu'on soit très réactif, qu'on envoie un technicien pour vérifier ce qui s'est passé, changer ce qui doit l'être, évidemment à minima les électrodes, mettre le défibrillateur en état de fonctionnement ou le changer si on n'arrive pas à la réparation.
Vous formez donc des personnes qui sont référentes au sein de la copropriété. Imaginons qu'une personne fasse un arrêt cardiaque, que la personne référente ou les personnes référentes ne soient pas disponibles, vous allez pouvoir malgré tout intervenir à distance pour aider une personne quand même qui serait sur place, pour aider une autre avec le défibrillateur ?
Oui, tout à fait. Alors, on va former tous les gens qui sont volontaires. On ne va pas donner une liste, on ne va pas demander une liste. Donc, tous les gens qui veulent, qui souhaitent être formés le seront très, très volontiers. Nos défibrillateurs jouissent aussi de la téléassistance et c'est un mécanisme qui se déclenche automatiquement dès que vous sortez le défibrillateur de son armoire. Donc, le simple fait de sortir le défibrillateur, notre centre de téléassistance est prévenu. On va vous appeler sur le module de télécommunication qui est greffé sur le défibrillateur et vous allez avoir un opérateur qui va vous dire qu'est-ce qui se passe. Ah, vous êtes en train de traiter un arrêt cardiaque. Ok, suivez les instructions du défibrillateur. On appelle les pompiers. On vous géolocalise. Dans les grandes copropriétés, ça peut être utile de savoir si on est à l'EB ou à l'EC pour envoyer les pompiers au bon endroit. Et notre opérateur va rester avec le témoin, les utilisateurs, jusqu'à l'arrivée des pompiers. Par ailleurs, notre centre est agréé, ce qui fait que toutes les conversations sont enregistrées sont opposables s'il y a une contestation. On a eu un cas très étonnant d'une famille qui a contesté la réalité d'une intervention dans une résidence senior. Heureusement pour le veilleur de nuit qu'il avait déclenché ce système et qu'on a pu fournir les bandes pour prouver que non, il avait fait le job. Malheureusement, la personne était décédée.
Thibault Antoine Paulet, pour en savoir plus sur Locacœur, j'imagine que vous avez un site internet. Enfin,
oui.
Même pas j'imagine, je le sais, on rappelle l'adresse.
Donc locacœur.com tout simplement.
Ok, le programme de la journée sur la REF pour vous ?
Essayez de nouer le plus de contacts possible avec donc d'autres chefs d'entreprise pour essayer de me créer une vision un petit peu plus précise de ces lendemains qui sont très très incertains.
Et justement, est-ce que le patron que vous êtes garde malgré tout une forme d'optimisme ?
Je ne pense pas que ce soit mon rôle d'être optimiste ou pessimiste. Mon rôle, c'est de prévoir l'incertitude et essayer de trouver des solutions de façon à ce que mon entreprise continue de prospérer, que, évidemment, nous continuons à sauver des vies. C'est notre métier, on sauve des vies tous les ans, on fait le bilan tous les ans. On est très fiers de nos taux de réussite. Et évidemment, créer un contexte dynamique et pour les salariés et plaisant pour les salariés. Donc, oui, le monde change. On va s'adapter.
Tout simplement. Un soft skills qu'il faut maîtriser en ce moment particulièrement. Merci beaucoup, Thibaut Antipolet, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous de votre fidélité. Nous faisons suivre en direct cette deuxième journée, de la sixième édition de la REF. Merci de votre fidélité et à très vite.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.